C'est Christian Page qu'on accueille avec les mythes et complots pour finir la semaine. Bonjour, Christian.
Bonjour, Bernard.
On va commencer par les végétariens.
Oui, mauvaise semaine
mauvaise semaine pour les végétariens, mais que se passe-t-il?
Oui, mauvaise semaine aussi pour les ufologues, les amateurs d'ovnis. Moi, on y reviendra, mais commençons avec nos végétariens. Écoute, on le dit en blague, mais c'est une étude qui vient d'être publiée. En fait, publiée. Elle a été mise sur un site scientifique. Elle n'a pas encore fait l'objet d'une publication avec un comité de lecture, tout ça. Donc, c'est très controversé. Mais voilà que ce sont des chercheurs de l'Université de Tel Aviv et qui nous disent que les plantes ressentent peut-être plus d'émotions qu'on pourrait le croire. Bon, bien sûr, les gens ici qui ont le pouce vert diront toujours la façon dont je traite mes plantes. J'ai l'impression qu'elles me comprennent. C'est pour ça que j'ai des belles plantes à la maison. Mais là, voilà que les chercheurs, eux, arrivent à la conclusion que ça peut aller même plus loin que ça. Les plantes pourraient même « crier » entre guillemets, leur désarroi. Et là, je sais que ça peut paraître très surprenant.
Les plantes émettraient des sons?
Voilà, les plantes émettraient des sons, ce sont de très hautes fréquences, hein. C'est des sons qui vont entre 20 et 100 kHz. Hein, pour te donner une idée, l'oreille humaine entend entre 20 et 200 000 Hertz. Alors là, ici, on parle de kilohertz, donc c'est beaucoup plus élevé. Et ce qui se produirait, donc, c'est des plantes au moment où, dans des situations de stress, que ce soit parce qu'il y a une menace imminente, soit parce qu'on a coupé la plante, soit parce qu'il y aurait des ennemis, entre guillemets, près de la plante, alors les plantes seraient en mesure d'émettre ces espèces de cris qui seraient entendus à plusieurs mètres à la ronde. Et quand je dis plusieurs mètres à la ronde, ils pourraient être perçus à la fois par des petits animaux comme les souris, les écureuils, les chauves-souris, les lézards, les mouches et les araignées.
Ben voyons donc.
Oui, ça va dans ce règne-là. Donc, ce que l'on a fait, écoute, ça peut paraître très étonnant. Puis moi-même, quand j'ai lu l'étude, j'étais très surpris. Mais bon, les chercheurs ont pris des plants de tomates et ils ont pris des plants de tabac. Et là, ce qu'ils ont fait, ils avaient, pour chaque expérience, ils avaient un plant sain, donc sur lequel il n'y avait pas de stress, on n'a rien fait. Il y avait un plant qu'on avait amené presque à la sécheresse complète et un autre plant sur lequel on avait fait une bouture récente. Et là, on a mis des microphones autour de ces plantes pour voir si on entendait quelque chose. Et on a découvert, et là, j'ai les chiffres devant moi, Bernard, ne m'accuse pas de rien. Je ne fais que lire les chiffres. Donc, sur les plants de tomates, par exemple, on s'est aperçu que les plants qui étaient proches de la sécheresse émettaient 35 cris à l'heure. Donc, ça dure quelques secondes, cette émission de bruit, cette émission de très haute fréquence. Donc, 35 fois à l'heure. Pour les plantes qui avaient eu une bouture, là, on parle de 25 cris à l'heure. Donc, visiblement, la sécheresse est plus dommageable que la bouture.
Oui.
Et si on les laissait à elles-mêmes, si on prend par exemple le modèle étalon, la plante qui n'avait rien, elle émettait un petit cri une fois à l'heure. On ne sait pas pourquoi, mais elle le faisait. Et sur les plants de tabac, on s'est aperçu que les chiffres étaient à peu près pareils, mais pas forcément en fonction de l'agression. Hein. Les plantes qui étaient plus proches de la sécheresse sur les plants de tabac émettaient 11 cris à l'heure, 15 cris à l'heure pour l'effet d'une bouture, et là aussi, pour les plantes saines, il y avait un cri à l'heure. Inutile de dire que tout ça. Bon, et là, évidemment, les chercheurs émettent l'hypothèse en disant si on pouvait écouter nos plantes de culture, on pourrait peut-être se mettre au diapason de leurs besoins. Inutile de dire toutefois que les scientifiques restent très, très, très critiques par rapport à ce travail-là parce que, comme je te l'ai mentionné, il a été mis en ligne sur un site scientifique dont on peut télécharger l'enquête, mais il n'a pas fait l'objet d'une publication dans un périodique scientifique avec un comité de lecture. Et là, les scientifiques se disent, bon, d'abord, un échantillonnage avec deux types de plantes, tomates et tabac, c'est insuffisant. Il faudrait pouvoir reproduire les mêmes résultats. Et les scientifiques tiennent à souligner qu'il existe un phénomène que l'on connaît avec les plantes qui s'appelle la cavitation. Et la cavitation, c'est lorsque les tissus qui amènent l'humidité des racines vers la plante souffrent de sécheresse. Ils se transforment, alors ils se produisent à l'intérieur des bulles d'air. Et lorsque les bulles d'air éclatent, elles produisent des ultrasons semblable à ce qui a été enregistré. Donc, on se dit peut-être qu'ici, il y a une confusion. Les données obtenues sont peut-être une confusion avec un phénomène de cavitation qui est bien connu des scientifiques qui travaillent dans le domaine de la biologie, dans la biologie végétale, tout ça. Alors, on s'interroge. On a un questionnement, mais c'est vrai que si on croit que les plantes ressemblent des choses, ben voilà que cette étude viendrait donner de l'eau au moulin à ceux qui ont cette prétention.
Oui, mais c'est surtout que si on pouvait faire la démonstration que les plantes peuvent éprouver des émotions, évidemment, Ceux qui nous disent cessez de manger de la viande et manger des plantes, soyez végétarien ou végétalien, mais à ce moment-là, mettons que l'argumentaire des végétariens ou des végétaliens pourrait en prendre pour son rhume.
Voilà,
là, ça peut être éminemment politique, c'est ça que je veux dire en bout de ligne. C'est pour ça que c'est si délicat et si controversé.
Voilà, parce que dans leur discours, souvent, ces gens-là disent les plantes, on ne crée pas d'agression par rapport à une nourriture, par exemple, animalière. Il y a une agression, alors que là, ils ont dit il n'y a pas d'agression.
Alors,
mais voilà que l'étude vient dire...
Poser une question. OK, voilà. Très bien. Tu nous disais mauvaise semaine aussi pour les ovnis. Les ovnis du Pentagone?
Oui, les ovnis du Pentagone. Rappelle-toi, Bernard, on fait un petit saut dans le temps. En 2017, en décembre 2017, donc il y a pratiquement 2 ans jour pour jour, le New York Times lançait littéralement une bombe en disant, voilà, entre 2008 et entre 2007, en fait, et les travaux ont commencé en 2008, mais entre 2007 et 2012, il y a eu un programme clandestin au Pentagone qui servait à enquêter sur les UAP, les Unidentified Aerial Phenomena, les phénomènes aériens non identifiés, nouveau nom donné aux ovnis. Et là, évidemment, c'était une espèce de bombe. Tu comprends que les amateurs d'ovnis ont sauté là-dessus en disant « Ah, voilà que le gouvernement nous disait qu'il ne s'intéressait plus aux ovnis depuis la fin des années 60. » Et là, on découvre qu'il y a un programme au sein du Pentagone où on enquête sur les ovnis. Et donc, depuis 2 ans maintenant, les amateurs d'ovnis surfent sur cette histoire-là. Ils échangent de l'information et ils légitimisent d'une certaine façon leur sujet d'intérêt en disant « On n'est pas fous de s'intéresser aux ovnis. La preuve, c'est que le Pentagone aussi s'intéresse aux ovnis. » Mais cette semaine, ça a été un peu la douche écossaise parce que la porte-parole du Pentagone, Susan Gouke, a tenu à faire une mise au point. Elle a dit « C'est vrai que ce programme dont on a beaucoup parlé en 2007-2012 s'appelait le programme d'identification avancée des menaces aérospatiales.
Ouais.
C'est vrai que dans le mandat, on parlait de phénomènes aériens non identifiés. Mais la définition du Pentagone sur un phénomène aérien non identifié n'a jamais, et elle le précise bien, n'a jamais été autre chose qu'une technologie créée, développée par des puissances étrangères, chinoises, russes ou peu importe.
Oh.
Il n'a jamais été question dans la définition du Pentagone de quelques possibilités d'aéronefs venus de l'espace ou extraterrestres et rien d'autre.
En fait, les menaces aérospatiales, c'était pas des menaces d'autres galaxies ou d'autres univers, c'était des menaces terriennes.
D'autres pays.
Oui.
Donc, et elle dit, là, faut faire attention parce que les amateurs d'OVNI aiment beaucoup étirer l'élastique de objets volants non identifiés. Mais la définition que le Pentagone donne de ces objets volants non identifiés est clairement engin d'une origine autre qu'américaine, mais tout à fait terrestre. Jamais le Pentagone ne s'est intéressé et jamais il n'a été du monde mandat de ce programme-là d'enquêter sur de soi-disant apparitions que certains auraient pu associer à des visites extraterrestres.
Mais je comprends leur déception.
Voilà. Et oui, c'est sûr qu'il y a une grosse déception. Et c'est vrai que les amateurs aiment, c'est souvent un peu arbitraire, hein. L'armée dit il y a 2 semaines, ces vidéos sont authentiques. Alors là, les amateurs disent, ça doit être vrai parce que l'armée dit que c'est vrai. Et là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils vont dire, on n'enquêtait pas sur les ovnis. Ils vont dire, ah, ben là, l'armée nous ment. C'est un peu arbitraire de savoir quand ils disent la vérité ou quand ils disent vrai et qu'est-ce que les ufologues choisissent là-dedans. J'ai l'impression que l'armée dit vrai quand ce qu'ils disent correspond à ce que les ufologues veulent entendre.
Voilà.
Mais ça, c'est une autre paire de manches.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que tu fais la bonne analyse, mon cher Christian Page.